Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'espérance, car c'est le thème de la catéchèse de ce matin. Nous avons vu la foi, nous allons voir bientôt la charité en faisant un petit, non pas détour, mais un petit arrêt sur le mystère du sacré cœur de Jésus, bien sûr. Pour l'heure, confions cette catéchèse à notre Mère du ciel, qu'elle nous donne part à son espérance dont elle a vécu ici-bas sur terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous lire un petit passage qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 2. Voilà que le petit Jésus a 40 jours et qu'il va être présenté au temple par Marie et Joseph. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, délier l'esclave, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et oui, c'était toute l'espérance d'Israël que Dieu devait envoyer un Messie. Il avait promis. Et voilà que l'espérance, don de Dieu, nous fait marcher ici-bas, non seulement dans la foi, l'espérance implique la foi, l'espérance est déversée dans notre volonté, capacité spirituelle d'aimer. Mais elle présuppose la foi, car on ne peut espérer que ce que Dieu nous a révélé. Alors Dieu a révélé des choses. Et Dieu a promis. Il s'est révélé lui-même et il a promis qu'il enverrait son Messie. Alors quand il promet des choses, il y a des gens qui y croient et qui espèrent. Ils croient que Dieu dit vrai. Et lorsqu'il s'agit de promesses, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore arrivées, des choses à venir, alors cela vient susciter un désir surnaturel qu'on appelle l'espérance. C'est-à-dire, non seulement je crois en Dieu, non seulement je crois que Dieu dit vrai, mais j'espère, c'est-à-dire je tiens l'accomplissement des promesses, l'accomplissement des promesses divines. Alors, frères et sœurs, on comprend la joie de Siméon qui touche l'accompli. Il touche le terme de l'espérance, c'est-à-dire il voit, mes yeux ont vu ton salut. L'espérance, qui est comme une ancre, nous dit la lettre aux Hébreux, nous fait être déjà comme attachés au port, sans y être encore, mais nous sommes déjà liés par ce petit lien de l'espérance, qui est un petit lien très, très fort. Frères et sœurs, en plus, dans les temps que nous traversons, qui sont des temps un peu perturbés, un peu. Et c'est moins, le moins qu'on puisse dire, c'est un peu compliqué, toutes les périodes que nous traversons, au niveau planétaire, au niveau ecclésial, au niveau. C'est pas simple, c'est pas simple. Au niveau économique, au niveau social, politique. Bon, alors, c'est un grand temps. C'est le temps où le Seigneur nous invite à une espérance inébranlable. Quand ça secoue de partout, quand ça tangue, quand ça fuit, hein, eh bien, ça veut dire que, attention, où as-tu mis ton espérance? Sur quoi, quel est le roc de ta vie? Parce que quand tout s'effondre, quand tout menace de s'effondrer, quand tout s'effondre, est-ce que toi, tu tiens bon? Alors tu ne peux tenir bon que si tu as des forces d'en haut. Si tu ne peux tenir bon que si tu ne prends pas appui sur tes propres forces, mais sur ce que le Seigneur te donne comme appui. Alors l'espérance, c'est la deuxième vertu théologale. C'est-à-dire, maintenant vous connaissez ça très très bien, quand on parle de vertu théologale, c'est une vertu qui vient de Dieu, un don de Dieu qui nous amarre à rime à Dieu, qui a objet comme objet Dieu lui-même, notre béatitude, le bien de l'espérance, c'est Dieu, notre béatitude, notre ciel. De sorte que on comprend tout de suite que, au cours de notre parcours terrestre, dans la cité d'en bas, si nous n'avons pas l'espérance, eh bien, on va essayer tout le temps de gérer la crise, de gérer les crises, d'éviter les effondrements, ou de préparer les post-effondrements, mais toujours avec une gestion humaine des choses. Avec l'espérance, on bascule, on s'élève, on passe à un autre régime qui nous permet non pas de décoller, non pas de planer, mais qui nous fait changer de perspective et qui nous fait envisager l'ici-bas, à partir de la lumière d'en haut, à partir de Dieu. Frères et sœurs, franchement, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Parce que l'espérance regarde un bien à venir, que ce soit d'un point de vue personnel, notre éternité, notre ciel ou notre enfer. Bon, l'enfer, c'est pas un bien. Mais notre éternité personnelle. Et regarde aussi le bien collectif. Alors, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Ben, à y bien réfléchir. Si nous avons un petit peu d'espérance théologale, aucunement, aucune peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que Siméon, je ne le vois pas comme un homme apeuré. L'espérance nous fait attendre non pas une amélioration des choses d'ici-bas selon un ordre humain, l'espérance nous fait attendre la réalisation des promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pour ça que saint Paul dira: l'espérance ne déçoit pas. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Qu'il y ait des gens déçus par Dieu, ok, ben ils manquaient d'espérance, ceux-là. Ils étaient peut-être dans quelque chose de trop humain, d'un espoir humain. Ils avaient mis leur espoir en Jésus en pensant que Jésus allait résoudre leur problème, résoudre le problème d'occupation des Romains. Ou peut-être le problème religieux, il y avait les trucs quand même qui n'allaient pas très très fort. Hein. Jésus, tu peux pas arranger ça, franchement, tu vois bien. Hein. Pas terrible tout ça. T'as vu ces pharisiens hypocrites là, franchement, fais quelque chose. Hein. Jésus Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il ne vient pas arranger nos affaires. Il n'est pas venu pour arranger nos affaires selon notre mesure, selon nos espoirs à nous. Non. Si nous mettons notre espoir humain en Jésus en disant « Mais arrange mes affaires, Jésus », on sera toujours déçu. Et on va accuser Dieu de ne pas intervenir comme on veut, autant qu'on veut, de la manière qu'on veut. Alors, il faut bien être clair sur la véritable attente que nous donne l'espérance. L'espérance touche Dieu. Et le secours de Dieu en vue de la réalisation des choses de Dieu, c'est-à-dire de son dessein bienveillant. Alors, si nous sommes dans l'espérance, on va tout traverser avec l'espérance. On sera peut-être crucifié, on sera peut-être ruiné, on sera peut-être maltraité, on sera peut-être calomnié, on sera peut-être maltraité, mais on va tout traverser avec l'espérance. De sorte qu'on ne sera jamais déçu parce que, encore une fois, si vous mettez un espoir humain, on dirait comme Pierre à Jésus, « Jésus, non mais non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, mais non !» « Passe derrière moi, Satan !» Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Espérer que Jésus s'en sorte à la croix, dans sa passion, par rapport à sa condamnation, etc., etc., c'est être du côté du démon. C'est fou ! Mais enfin... Jésus, comment tu peux dire que Pierre, tes pensées ne sont pas celles des hommes, passe derrière moi. Qui ? Satan ! Mais enfin, eh oui, parce que ce n'est pas le dessein de Dieu. Si tu avais l'espérance, Pierre, tu aurais dit comme Marie, on y va, on y va. Il faut livrer sa vie pour la multitude, en rançon pour la multitude, on y va. Il faut être martyr pour que la multitude ait la vie. On y va. Je ne comprends pas grand-chose, mais si tu y vas, j'y vais. Avec toi. Plutôt que de dire non, cela ne t'arrivera pas, on va tout faire, on va faire une réunion, et puis on va essayer de rencontrer des gens dans le Sanhédrin. On va essayer de les convaincre que tu es un chic type. Hein? Comme ça, peut-être que tu pourras échapper. Non. Siméon, il attendait la délivrance d'Israël, qui n'est pas une délivrance politique, qui n'est même pas une délivrance religieuse, qui n'est même pas une... Voilà. Alors il y a des gens dans ce peuple d'Israël qui ont la véritable espérance. Siméon, Anne, la prophétesse, bien sûr Marie, Joseph... Il y a des gens comme ça. Ils gardent et ils accompagnent Dieu qui œuvre. Dieu a semé des promesses par sa parole. Et comme ça pousse, tel le paysan qui sait ce qu'il a semé dans sa terre, bien qu'il y ait un peu de froid, un peu de vent, un peu complications climatiques, il sait que ça pousse, il sait que ça va sortir, et il accompagne le mûrissement de ce qui a été semé. Car la parole de Dieu est comme une semence. Elle porte en elle déjà le fruit de l'arbre. Ah ben vous voyez quoi ? Bon, le paysan, il voit déjà un arbre. Comment ça se fait ? Parce qu'il sait ce qu'il a mis. Il sait ce qu'il y a sous la terre, mais vous ne voyez rien. Mais c'est une belle analogie pour nous faire comprendre ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est de tenir au milieu de tout, encore une fois, au milieu de la grêle, au milieu de la chaleur, au milieu de la pluie, au milieu de tout. Ça pousse. Qu'est-ce qui pousse ? L'œuvre de Dieu. Le dessein de Dieu est en train de s'accomplir. Non mais mon père, oui, vous croyez que le dessein de Dieu est en train de s'accomplir? Là, vous écoutez pas les nouvelles, vous, ça se voit, hein? Vous planez complètement. Vous savez ce qui se passe un peu dans le monde là, en ce moment? Vous êtes au courant un peu là? L'espérance nous fait dire, nous fait affirmer avec un aplomb inébranlable, Dieu est en train de faire pousser sa parole. Son dessein bienveillant, c'est en train de pousser. Peut-être que vous, vous ne voyez rien. Mais celui qui a l'espérance, il ne voit pas, mais il garde. Il garde l'accomplissement des desseins de Dieu qui est en train de se faire. Mais pour ça, il faut la foi et l'espérance. Eh oui. C'est pourquoi, lorsque ça sort, lorsque le règne de Dieu fleurit, on n'est pas étonné, mais non, on n'est pas étonné. On attendait joyeusement, pauvrement, en n'ayant pas tout le contour, en n'ayant pas tous les descriptifs, la compréhension descriptive de tout le comment ça va se faire. Non, non. L'espérance nous garde pauvres dans justement le descriptif. Comment tu vas régner, Jésus? Comment tu vas faire? J'en sais rien, mais je sais que tu vas le faire. Comment ça va se passer? Le règne de la divine volonté, c'est quoi? C'est un règne eucharistique? C'est un règne dans les âmes? Comment ça se passe? Vous pouvez m'expliquer? En 2030, comment ça va se passer? Ben non, on n'en sait rien. Mais on garde joyeusement, pauvrement, dans l'espérance, c'est-à-dire on accompagne Dieu qui est en train d'œuvrer comme un fou d'amour pour les hommes. Alors, au milieu de la panique, au milieu des effondrements, au milieu de tout ce qui secoue, le chrétien, il fait quoi? Est-ce qu'il panique comme les autres? Il garde la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une force surnaturelle en nous, frères et sœurs, qu'on appelle l'espérance. L'espérance nous fait attendre. L'espérance, c'est magnifique ça. Saint Paul, il dit comme ça. Nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Nous, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternelles. Alors, quand on est trop scotché au visible, vous voyez, scotché aux écrans, scotché au... à la télé, vous voyez, on est scotché. Ah. 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est bien. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Tu arrives à te détacher de l'écran pour voir un petit peu ce qui se passe dans les choses invisibles? Ah oh non, non, moi j'y arrive pas. Oh, l'espérance nous met en haut, nous fait regarder les choses d'en haut et nous fait tout traverser d'en haut. C'est pourquoi elle nous fait attendre, mais elle nous donne un élan extraordinaire. Non seulement les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, mais l'espérance nous donne un élan extraordinaire. Alors vous connaissez ce passage d'Isaïe 40, 30, 31, magnifique. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent en dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, c'est extraordinaire. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Bien sûr, pourquoi? Parce que l'adolescent... Enfin, je ne parle pas d'âge, on peut être adolescent à 50 ans, hein? Ce que, il me semble, le Seigneur veut dire à partir dans ce passage d'Isaïe, les adolescents se fatiguent et s'épuisent, parce que c'est la vie passionnelle d'un adolescent, ça va, ça vient, avec des hauts et des bas, avec des montagnes russes, sans cesse, hein. Des plus grandes exaltations aux plus grands effondrements. Et 15 fois par jour, dans la même journée, hein. C'est toutes les quatre saisons de Vivaldi dans la même journée. Bon, c'est fatigant, hein. Ah oui, c'est épuisant. Les jeunes, ils font que chanceler. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de racines. Ils manquent de racines célestes. Ils manquent de racines divines. Parce que, de fait, l'espérance demande de s'enraciner en nous. Au début, c'est tout petit. Et puis, comme on pratique l'espérance, eh bien, on devient de plus en plus espérant. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles. C'était l'aigle. C'est extraordinaire, l'aigle. Vous savez, c'est le symbole de l'évangéliste Saint Jean. L'aigle, non seulement il regarde le soleil sans être brûlé dans sa rétine d'œil, c'est intéressant. De fait, Saint Jean, il contemple le mystère du Verbe qui est la lumière. Et il n'y a pas de problème de rétine, vous voyez. C'est-à-dire que l'espérance nous fait regarder le soleil, l'aigle, ça nous fait regarder le soleil. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on découvre le mystère de la femme, c'est incroyable ça, Saint Jean. Il faut regarder le soleil pour comprendre la créature, la création. Tout le mystère de tout l'univers, il faut regarder le soleil, c'est-à-dire Dieu. Donc, l'aigle, c'est très très bien vu. Regarde le soleil, et du coup, on voit tout à partir du soleil. Et on voit les choses que les gens qui sont dans la plaine, scotchés à leurs problèmes, ils ne voient pas. Franchement, ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils regardent d'en bas. D'en bas, c'est la calamité, c'est problématique. Ils disent, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Vu d'en bas. Vu du dessus, ça permet de voir des choses selon Dieu. Et alors, ça permet aussi, et surtout, ça donne une telle force de courir sans s'épuiser. Normalement, quand on court, on se fatigue un peu, hein? Et puis de marcher sans se fatiguer. Courir, marcher, nous sommes des vivants. L'espérance nous fait aller de l'avant. Le contraire de la désespérance qui nous tient immobile. Et c'est un des péchés contre l'espérance qui s'appelle la désespérance, justement, et qui va consister à... Avoir, vous savez, cette espèce de vague à l'âme, cette espèce de tristesse apparemment sans cause, ça traîne dans l'âme, c'est là, c'est le à quoi bon, c'est, ouf, il n'y a plus d'élan, quoi, il n'y a plus rien, quoi, hein? C'est une tristesse. Déception, tristesse, à quoi bon? C'est le vague à l'âme, tristesse, qu'on appelle la sédie. Ça peut être l'ennui avec le désir de le tromper par des divertissements de toutes sortes, c'est tous les phénomènes de compensation. Tu t'ennuies? Bon, ben va faire un peu de sport. Ben oui, c'est pas mal le sport. Ben, va au cinéma, je sais pas moi, occupe-toi. Ben, attention à l'ennui, frères et sœurs. Attention. À regarder sans cesse nos misères, sans regarder celui qui est miséricordieux. Attention à regarder nos nombrils. Si on se regarde soi-même sans le regard de Dieu, on va désespérer, bien sûr. On va se dire, mais comment le bon Dieu fait pour aimer quelque chose comme ça, on dirait même plus quelqu'un comme ça, mais on dirait quelque chose comme ça, ce tas de misère que je suis, hein? Se regarder sans cesse avec nos misères nous conduit inexorablement à la désespérance. Tandis que si on regarde le soleil qu'est Dieu, et on se verra, on va se découvrir dans le soleil, qui regarde vers lui resplendira sans ombre d'un trouble visage. Et par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est-à-dire que dans la lumière de l'amour de Dieu, on se découvre une merveille. Et lorsque nous péchons, lorsque nous faisons l'expérience de notre misère, loin de nous désespérer et de nous affliger, on va se jeter par la force même que donne l'espérance. On va se jeter dans les bras de Jésus, miséricordieux. Vous voyez? Alors, bien sûr, ces grosses tentations de la désespérance peuvent être aussi le souhait de n'avoir jamais été, cette espèce de détestation de soi-même, de se dire, moi, j'aurais préféré ne jamais vivre, ne jamais exister. Comme on considère notre vie comme une vie de raté, comme parce qu'on regarde les choses d'en bas. Pas du tout à la hauteur de Dieu, pas du tout dans le dessein de Dieu, pas du tout sous son regard. Alors du coup, ben oui, c'est désespérant. Et on comprend très bien que les gens se disent, ben, à quoi bon vivre? Puisque personne ne m'aime, puisque ma vie, je sais pas, je n'ai pas la perspective du ciel. Alors ben forcément, la vie sur la terre n'a aucun sens s'il n'y a pas le ciel. Le plafond est très très bas. S'il n'y a pas le ciel, s'il n'y a pas l'éternité, s'il n'y a pas l'amour infini qui m'aime, s'il n'y a pas la béatitude, s'il n'y a pas le bonheur, frères et sœurs, que donne Dieu, qu'est Dieu? Alors oui, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici-bas? Ça sert à quoi de vivre? Il ne faut pas être effrayé par ce genre de questions. C'est notre question existentielle. C'est le sens de ma vie, quand même. Le sens de la finalité. Alors bien sûr, quand je découvre que Dieu m'aime, et quand je découvre qu'il est mon ciel, et que je découvre qu'il me donne tout le secours dont j'ai besoin pour me conduire au ciel qui est trop inaccessible à ma nature, ben c'est sûr. Car encore une fois, rappelez-vous, nous sommes dans un ordre disproportionné par rapport à notre nature. Aller au ciel n'est pas à notre portée. C'est pourquoi Dieu nous donne l'espérance pour que nous puissions y aller. Sinon, Dieu serait une idole. Or, Dieu est Dieu. Il est tout autre et il est notre ciel, il est notre béatitude. Alors, il faut qu'on le découvre, il faut qu'on le se mette à nous attacher à lui, qu'on fasse l'expérience de notre incapacité réelle. Et loin de nous désespérer de notre incapacité réelle, on devrait s'en réjouir, nous dit, mais Seigneur, c'est fou parce que tu m'invites au ciel, tu m'invites à vivre une vie en toi, par toi, avec toi, c'est-à-dire le ciel, pour l'éternité. Mais je fais comment? Je fais comment pour y aller? Moi, j'y arrive pas, moi. Vous y arrivez où? Alors, le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous dit, si, si, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et alors je te donne non seulement la foi pour que tu croies en mes paroles, que tu crois en moi, mais je te donne l'espérance pour que tu puisses t'attacher à mon secours, au secours divin, au secours du ciel, la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. On ne va au ciel que par la toute-puissance de la miséricorde de Dieu, attention, à laquelle on s'agrippe. Voilà, c'est notre passeport. Notre passeport, c'est notre espérance en la miséricorde de Dieu, hein. C'est ce que disait la petite Thérèse. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est la confiance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Alors, attention aux tentations de désespérance, tentations du suicide, bien sûr. Et on le voit dans la Bible. La Bible n'élude pas du tout la question, au contraire. Il y a le livre de Job, bien sûr. Puis il y a toutes les révoltes qui traversent le cœur de l'homme et qu'il jette en crachant sur Dieu, et que Dieu va accepter de prendre sur son visage. Parce qu'au lieu de vivre en lui, l'homme s'est révolté, l'homme a désobéi, et comme c'est une faute trop lourde à porter, il va accuser Dieu. Il va accuser Dieu d'être source de son malheur, alors que c'est le choix personnel de chacun. Nous avons la vie que nous choisissons, frères et sœurs. Alors, les luttes, les échecs, entre guillemets, les espoirs brisés, les adversités de toutes sortes, les deuils, l'inévitable approche de la mort, la vieillesse, notre corps qui part en ruine, comme dit saint Paul. Attention, faisons de tout cela comme des leviers, comme des leviers sur lesquels on s'appuie pour se jeter en Dieu, pour grandir dans l'espérance et pour considérer à nouveau notre destinée éternelle et notre vocation au bonheur. Car si nous oublions le ciel, immédiatement, frères et sœurs, immédiatement, le Seigneur nous a très très bien fait quand même, immédiatement, tout s'aplatit. Dès qu'il y a l'espérance, ah, tout s'élargit, ça y est. Au-dessus de ma tête, il y a quoi? Des problèmes? Non. Un avenir, quoi? Il y a Dieu au-dessus de nos têtes, il y a le ciel, il y a l'éternité. Nous sommes faits pour ça, frères et sœurs. Alors, vous comprenez que l'espérance doit produire en nous beaucoup de joie. Beaucoup de joie. L'espérance est joyeuse, par nature. Mais comment tu fais pour être dans la joie au milieu de telles calamités, toi? Tu vois pas que tu as des problèmes, quand même. Tu vois pas que dans ta famille, ça va pas très très bien. Mais comment tu fais pour demeurer dans la joie? Ah, parce que tu as l'espérance. Ah, tu n'as pas que l'espoir. L'espoir que tel ou tel trouve un travail, l'espoir que tel ou tel reste ensemble, que tel ou tel enfant trouve bien sûr, évidemment, guérison à sa maladie, etc. Non, non seulement tu as de l'espoir, mais tu as l'espérance au milieu de tout ça. Autrement dit, tu accompagnes Dieu qui accomplit ses desseins dans la vie de ton enfant, de tes petits-enfants. Ah, ben bravo. Espérance orientée vers le ciel, espérance aussi orientée vers la réalisation des desseins de Dieu sur la terre. Eh oui, car Dieu aime la terre. Et il aime tellement la terre qu'il s'est fait homme. Et il aime tellement la terre qu'il nous a donné son esprit. Et il aime tellement la terre pour nous dire, tu sais, sur la terre, qui est le marchepied du trône de Dieu quand même, tu es fait pour vivre un régime surnaturel. Est-ce que ça te fait décoller? Non. Au contraire, ça te fait prendre à bras le corps, à bras le cœur et à bras le corps. Tout ce que tu touches, tout ce que tu, avec quoi tu es en contact, pour les emmener vers le Père, vers le ciel. Ça alors. Alors l'espérance ne déçoit pas? Non. L'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que nous soyons des... Et c'est le désir du Seigneur pour nous, bien sûr. Que nous soyons des témoins de l'espérance. Nous sommes, nous, chrétiens, comme les autres êtres humains, ici-bas, sur cette terre, c'est-à-dire que nous sommes dans les mêmes complications. Voilà. Mais, au lieu d'être témoin de la mauvaise nouvelle selon machin, bidule, truc, hein, est-ce que nous pourrions être témoins de Jésus ressuscité? de Jésus, alpha et oméga de la vie de l'Église, de la vie du monde, de la vie de mon pays, de l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous pouvons être témoins de ce grand victorieux, du Verbe de Dieu qui monte sur son cheval dans l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse est merveilleux pour les temps que nous traversons, parce que c'est vraiment le livre de l'espérance, le livre de la victoire du crucifié et du ressuscité. Et pourtant, on voit à travers toutes sortes de fléaux, toutes sortes de calamités, misère, famine, crash économique, guerre, maladie, épidémie, il y a tout ça dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que, au milieu de tout ça, est-ce que tu tiens la victoire de Jésus ressuscité? Dans ta vie perso, est-ce que tu marches avec le ressuscité? Ou est-ce que tu t'écroules avec ceux qui s'écroulent? Alors, si tu t'écroules, relève-toi. Prends la main que Dieu te donne aujourd'hui, relève-toi, relevez la tête. Quand vous entendrez toutes ces nouvelles de calamité, relevez la tête. Ah bon? Voyons, c'est spécial. Ben oui, c'est le propre du croyant, si vous voulez. Le croyant, l'espérant, il a tout le temps la tête levée, lui. Quand vous entendrez toutes ces rumeurs de guerre, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors gardons la tête haute, frères et sœurs. Non pas, comme dit saint Augustin, dans la cité de Dieu, non pas parce qu'on est bouffi d'orgueil, mais gardons la tête haute parce que c'est Dieu qui nous fait tenir la tête haute par le don de l'espérance qu'il nous donne et que dont nous voulons nous emparer aujourd'hui d'une manière nouvelle pour marcher, courir, voler. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous remplisse et vous booste dans ce don, cette vertu magnifique de l'espérance. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.